À ce que nous venons d'entendre, ces lectures qui nous font rentrer vraiment dans le carême, hein. Après le mercredi des cendres, le premier dimanche de carême, c'est vraiment l'entrée décisive du carême. C'est aujourd'hui que les catéchumènes vont être appelés par notre évêque, hein. C'est ce qu'on appelle l'appel décisif, ces catéchumènes qui vont être baptisés au jour de Pâques, hein. Nous en avons deux cette année sur la paroisse qui seront baptisés, donc dans la veillée pascale. Alors, là aussi, on ne sait pas à quelle heure elle aura lieu, mais en tout cas, on la fera. On fera la célébration. Voilà. Donc, nous entrons de façon... Et ces lectures nous aident à entrer dans ce temps du carême. Alors, ce que les lectures d'aujourd'hui nous montrent, hein, nous avons entendu la première alliance dans la Bible, première alliance, l'alliance noachique, comme on dit, hein, c'est-à-dire, après le déluge, Dieu fait une alliance. Il promet une chose, il dit... J'ai détruit l'humanité parce qu'elle était perverse. Et bizarrement, c'est comme ça que la Bible raconte, Dieu regrette et dit « Je ne recommencerai plus. Je ne détruirai plus l'humanité comme je l'ai fait. Et je fais une nouvelle alliance dont l'arc-en-ciel en sera le signe. » Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, chaque fois que je vois un arc-en-ciel, j'y pense. C'est le signe de cette alliance entre Dieu et nous. Bien sûr, c'est un phénomène... physique, peu importe, mais on s'en fiche. Ce qu'on sait, nous, c'est que le Seigneur, l'arc-en-ciel, est le signe de cette première alliance avec toute l'humanité. Mais ensuite, malheureusement, l'humanité a été encore, elle s'est égarée de nouveau, a continué à se pervertir, à se détourner de Dieu. Et donc, Dieu va faire alliance sur alliance en choisissant un peuple, il va éduquer ce peuple, il va faire des alliances avec Moïse, etc., et puis, jusqu'au jour où, quand les temps sont accomplis, eh bien, il fait une alliance nouvelle et éternelle. Et ce que nous sommes en train de célébrer, ou de nous préparer à célébrer à Pâques, durant le Triduum Pascal, c'est cette alliance nouvelle et éternelle. Elle est nouvelle, complètement nouvelle, parce qu'accomplie en Dieu lui-même, par son Fils, quand Dieu prend chair, c'est en lui-même qu'il fait cette alliance, donc c'est complètement une nouveauté absolue. Elle est pleine de miséricorde, hein, une miséricorde insondable. Dieu prend sur lui notre désobéissance et notre égarement et notre péché, il prend sur lui, il le porte jusqu'à en mourir. Ça, en tout cela, elle est nouvelle, cette alliance. Au lieu d'égorger des agneaux au temple de Jérusalem, désormais, l'agneau véritable, c'est Jésus lui-même qui est Dieu, qui va mourir, qui va verser son sang pour l'humanité. Et ce sacrifice sera unique et il n'a pas besoin d'être réitéré de nouveau. Et en cela, il est éternel. Et comme il est éternel, et comme Dieu savait que l'humanité allait continuer à cheminer après la mort et la résurrection de Jésus, comme il savait tout cela, eh bien, il a fait en sorte que cette alliance unique, nouvelle, éternelle, réalisée une fois pour toutes en Jésus il y a 2000 ans, eh bien, puisse être actualisée en premier dans les sacrements et particulièrement l'Eucharistie. Hein, c'est pour ça que dans l'Eucharistie, nous pouvons avoir une vénération aussi grande à l'Eucharistie que nous l'avons pour Dieu. Et aussi, elle est renouvelée, actualisée. Elle n'est pas renouvelée dans le sens où on fait du nouveau vraiment, mais on redonne, on la réactive, réactualise par le mystère de Pâques, par la fête pascale, par la fête de Pâques que l'on va vivre. Et donc, comme ce mystère est grand, et ce mystère est le mystère de notre salut, le mystère de notre rédemption, efficace, il n'y a pas plus efficace que cela. Et comme il nous purifie, il nous ouvre le ciel, et bien à cause de cela, nous nous préparons intensivement à vivre les fêtes pascales. Et comme Saint Grégoire le Grand, un pape, un père de l'Église, dira, bien sûr, toute l'année, la grâce de Dieu nous est donnée. Toute l'année, nous pouvons cheminer dans la conversion. Toute l'année, nous pouvons travailler notre purification. Cependant, ce temps est tellement unique dans l'année que nous redoublons d'efforts que nous mettons vraiment avec détermination en route pour pouvoir bien vivre ces fêtes pascales et accueillir l'œuvre de la rédemption dans notre propre vie. Réactiver la grâce de notre baptême, réactualiser le salut éternel et faire en sorte que nous puissions être sauvés et sanctifiés. Et donc c'est vraiment dans cette attitude-là que nous rentrons en carême. Et que fait Jésus après le baptême? Parce que justement, donc c'est le baptême que nous avons tous reçu. Je pense que tous ici, pratiquement tous, nous avons reçu le baptême. Eh bien, que fait Jésus après son baptême? Il va au désert 40 jours. Et c'est exactement ce que nous faisons, nous qui sommes baptisés, nous allons au désert 40 jours. Et là, de la même manière que sur la croix, Jésus portera toute notre misère, nous n'avons rien à porter. C'est lui qui la porte, notre misère. Nous allons à lui donner. De la même manière qu'il porte tout, de la même manière au désert, Jésus en allant au désert pendant 40 jours, eh bien, il nous emmène avec lui et il combat avec nous. Il vit cela pour nous. Ce désert, Jésus n'avait pas besoin de travailler à une purification personnelle dans le désert. Il y va parce qu'il est poussé par l'Esprit, guidé par l'Esprit, selon la volonté du Père. La Trinité est présente. La Trinité s'implique dans ce travail de salut pour nous. Et il va au désert poussé par l'Esprit et il le fait pour nous. Quand Jésus vit ce qu'il vit au désert, il le vit pour nous. Alors, ce qui mérite un brin d'humour, c'est que dans le désert, on se dit, mais il n'y a personne dans le désert. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'évangile de Marc, où c'est très court, on a l'impression qu'il y a plein de monde au désert. Parce que Jésus, l'Esprit, le pousse au désert, et là-bas, il voit le démon, il y a des anges qui le servent, et il y a des bêtes sauvages. Ah, vraiment, c'est peuplé. Il n'y a pas des hommes, par contre. Et donc, en fait, alors, il y a plein de raisons. Marc est le seul à préciser qu'il y a des bêtes sauvages. Alors, il faut savoir que... Il faut se rappeler que dans le jardin d'Éden, en fait, les bêtes sauvages n'étaient pas dangereuses. L'homme vivait en harmonie avec la nature, et donc les animaux sauvages autour de lui. Et en fait, ce que Marc laisse entendre, c'est que Jésus, il est avec les bêtes sauvages, mais il est dans une harmonie parfaite. Elles ne lui font pas de mal. D'ailleurs, ce n'est pas les bêtes sauvages qui l'attaquent, vous avez remarqué. Donc, les autres évangélistes n'en parlent pas. Donc il est dans ce renouveau complet qui est en train de se réaliser et qui le réalise pour nous. Et de fait, certains nombres de saints dans l'histoire, il suffit de penser à saint François d'Assise avec le loup de Goubiot, il suffit de penser à saint Séraphime de Sarov, un saint orthodoxe avec un ours, et on pourrait trouver d'autres exemples. Eh bien, ces animaux qui sont normalement dangereux pour nous, ne sont plus dangereux pour ces saints. Ces saints-là peuvent leur parler, ils se trouvent en communion avec eux, parce qu'on retrouve l'état de l'Éden. Il y a une réconciliation avec la nature. Et c'est ça, quelque part, on pourrait dire que c'est ça la vraie écologie. Que l'être humain travaille tellement bien sur lui-même, sur son péché, sur sa conversion, sur son rapport aux autres, sur son rapport à Dieu, et puis aussi sur son rapport à la nature, tellement bien sur cela qu'en fait il se réconcilie vraiment avec tout ce qui l'entoure, y compris la nature et y compris les animaux sauvages qui pourraient être dangereux pour lui. Voilà. En tout cas, voilà l'évocation des bêtes sauvages. Mais on voit dans ce désert, bon, il y a les bêtes sauvages, il y a les anges qui servent Jésus, et puis il y a Satan. Et que fait Satan? Il tente Jésus. Alors on peut se dire, comment ça se fait? Jésus a été tenté. Alors c'est quelque chose de très important, il a été tenté pour nous, mais il nous faut nous rappeler que la tentation n'est pas le péché. Et c'est ce surpoint que je souhaite que vous puissiez retenir peut-être aujourd'hui pour vous aider à vivre le carême. Être tenté, ce n'est pas péché. On peut être tenté violemment, être dans la tempête, être, massacré dans sa tête, dans son cœur, dans son affectivité, par des tentations... Mais ce n'est pas le péché. Le péché, c'est l'acquiescement à la tentation. Le péché commence même à la discussion avec la tentation. Souvent, quand on chute dans la tentation, c'est parce qu'on a commencé à discuter avec cette tentation. On sait que ce n'est pas bien, mais on discute quand même. On se laisse un peu faire. Et en fait, il faut refuser. La tentation, quand elle vient dans notre tête, on est tenté de blasphémer, on est tenté de douter, on est tenté de faire du mal, on est tenté de se venger, on est tenté de regarder des images qui seraient mauvaises, on est tenté de ne pas prier, on est tenté, enfin voilà, plein de tentations qui peuvent nous arriver. Eh bien, face à elles, il nous faut faire l'acte de foi, l'acte de confiance en Dieu. Il nous faut faire l'acte inverse ou bien fuir la tentation purement et simplement. Ne pas l'écouter, comme le démon qui susurre à l'oreille et on se détourne de ce qu'il nous dit. Et ça, c'est une manière d'avoir presque la victoire assurée. Voilà. En tout cas, ne pas entrer en tentation dans notre Père. Et on demande à Dieu de ne pas entrer en tentation, ça veut dire ne pas prendre le chemin où on écoute la tentation. Encore une fois, donc la tentation n'est pas le péché, n'ayons pas peur, c'est normal que nous sommes tentés, le carême est aussi un moment de tentation, quand on se met vraiment à la suite de Jésus dans le chemin du carême, nous sommes tentés, ceux qui ont pris des résolutions, je souhaite que tout le monde en ait pris quelques-unes, ceux qui font exotus seront tentés d'abandonner, seront tentés de supprimer la douche froide, ou tiède, il y aura des tentations, c'est normal. Mais c'est pas pour autant qu'on va céder, Tenter, oui, mais on ne va pas chuter. Et on peut être tenté, pire, parce que ça, c'est pas très grave. On peut être tenté de ne pas faire le bien qu'on devrait faire. De refuser de faire le bien. Ça, c'est grave, très grave. Le manque de charité, c'est le péché le plus grave, qu'on se le dise. Avant même tous les péchés d'impureté. Au-dessus même de tous les péchés d'impureté. Voilà. Demandons au Seigneur, donc, de vraiment rentrer dans ce temps du carême, de ne pas être effrayé par les tentations qui peuvent nous assaillir, de ne pas croire que nous sommes mauvais parce que nous sommes tentés, mais de laisser Jésus lutter avec nous, et il a été victorieux dans la tentation, et de pouvoir ne pas acquiescer à la tentation et ne pas chuter dans le péché. Voilà, que le Seigneur nous y aide. Amen.